Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Nous aspirons tous au bonheur, à être heureux, mais au quotidien, nous avons tendance à nous plaindre, à être pessimistes sur l'avenir, à nous comparer aux autres. Et même si chacun d'entre nous n'a pas la même aptitude au bonheur, nous pouvons agir par des actions très simples, et peut-être d'ailleurs tout simplement en décidant d'être heureux. Alors je sais, vous allez me dire que cela dépend des tuiles qui vous tombent sur la tête, c'est en partie vrai, mais on connaît tous des personnes qui, face aux difficultés, restent sereines. Alors quelles sont les clés pour être heureux? Le bonheur est-il contagieux? Un psy peut-il aider sur le chemin du bonheur? On en parle à l'occasion de la sortie d'un hors-série Psychologie Magazine intitulé Le Grand Guide du Bonheur. Mes invités autour de cette table pour en parler, Alexandre Jardin, qui est romancier, scénariste, réalisateur. Il est rédacteur en chef, justement, invité de Psychologie Magazine sur ce dossier du bonheur. Son dernier livre, Laissez-nous faire, on a déjà commencé, aux éditions Robert Laffont. Vous verrez, ça a un lien avec le bonheur. Avec nous également le docteur Alain Braconnier, médecin, psychologue, ancien directeur de l'association de santé mentale du 13e arrondissement. Il a publié L'enfant optimiste aux éditions Odile Jacob. Et si vous le souhaitez, vous pouvez évidemment nous appeler au 33 1 84 22 75 75 et bien sûr les réseaux sociaux pour nous laisser des messages. Et dans cette émission, Sylvie Hasbrouck est aussi avec nous pour parler de son travail artistique sur les émotions. On aura également au téléphone le professeur Prosper Gandao, qui est chef du service de psychiatrie au CHU de Borgo à Parakou au Bénin. Et en fin d'émission, comme tous les lundis, on retrouvera la chronique nutrition de Stéphane Besançon. Alexandre Jardin, docteur Alain Braconnier et Sylvie Hasbrouck, bonjour.
Bonjour.
Merci à
bonjour.
Tous les trois d'être là. Alexandre Jardin, première question, c'est quoi le bonheur?
C'est les autres.
Oui, ça se définit pas que par rapport à soi, justement. Non. C'est ça le plus important.
Non, c'est le moment où on court le risque de les rencontrer.
Et ça veut dire, quand vous dites ça, ça veut dire surtout ne pas rester seul?
Mais on ne vit qu'autant que l'on aura rencontré les autres. C'est la grande fête, c'est ça. Hein. Et puis je dirais aussi autre chose, c'est agir. C'est absolument jouissif. Lorsqu'il y a une adversité, si vous arrivez à trouver en vous la capacité d'agir, c'est tout à coup les pires emmerdes du monde. Vous transforme en un homme ou en une femme heureuse.
Donc votre définition, c'est les autres et agir.
Et agir, s'engager.
Docteur Alain Braconnier, vous êtes d'accord avec ça?
Ah oui, je suis complètement d'accord. Parce que le bonheur, comment y accéder, c'est quand même une question assez compliquée, hein, depuis quelques millénaires. Et c'est vrai que pour y accéder, faut en effet avoir sans doute une manière d'être. Et dans ces manières d'être, rencontrer les autres, avoir des relations aux autres, comme le dit Alexandre Jardin, c'est vraiment reconnu aujourd'hui par tout le monde, en tout cas par tout le monde psychologique et qui s'intéresse à ces questions-là, comme une des caractéristiques qui fait que quelqu'un va pouvoir plus facilement accéder au bonheur que d'autres. Et puis la deuxième attitude, agir et combattre, s'engager, comme le dit Alexandre Jardin, vraiment, c'est pas pour reprendre ce qu'il dit, c'est parce que je crois vraiment que ces deux attitudes fondamentales pour, comme au fond, on peut le penser facilement, qui fait qu'on est plus optimiste et plutôt que subir, qui est le contraire d'agir, ou plutôt que de se replier sur soi, qui est le contraire d'aller vers les autres, eh bien, c'est ce qui permet justement d'aller vers ce qu'on peut appeler, dans certains moments, dans certaines situations, d'aller vers le bonheur. C'est vrai que je crois que là, on a vraiment deux attitudes fondamentales. Il y en a peut-être quelques autres, on va en parler, mais c'est vraiment deux attitudes fondamentales.
Et c'est intéressant parce que du coup, ça donne une définition du bonheur assez simple, alors qu'on a l'impression que c'est très compliqué à définir, mais avec ce que vous nous dites là, c'est pas compliqué. Dans votre dernier livre, là, vous dites, Alexandre Jardin, j'ai longtemps porté un masque de romancier, depuis 15 ans, en fait, je mène une double vie, ce qu'on sait moins, et vous menez une double vie parce que vous vous intéressez aux faiseux. J'aime bien votre expression, justement.
Pas
à
les
ceux
diseux.
Qui font...
Oui.
Diseux, les faiseux.
Les entrepreneurs, les gens qui créent des associations, les élus locaux, les gens qui passent à l'acte directement, pas ceux qui font voter des lois, ceux qui agissent directement, et je suis en train d'en rassembler des centaines en France, dans un mouvement qui s'appelle le mouvement des zèbres. On vit dans une société très dépressive en France. Et on a décidé de faire redémarrer le pays par en bas, avec les gens qui font, qui agissent. Et eux ne sont pas du tout dépressifs. Et puisqu'on est dans une émission de santé, je vais vous prendre un exemple. On a une élue locale dans le sud-est de la France qui s'est rendu compte que les gens n'avaient pas les moyens de se payer une mutuelle de santé. Et donc leurs enfants avaient de mauvais soins dentaires, etc. Avaient du mal à rembourser, à faire rembourser les lunettes de leurs enfants. Elle a rassemblé tout le monde dans sa commune. Elle a fait des réunions de quartier. Elle a groupé 290 foyers. Elle leur a fait signer un contrat de négociation collective. Elle a mis en concurrence 15 mutuelles de santé.
Du coup, elle a eu un meilleur prix.
Un bien meilleur prix. Et elle les a fait rentrer dans l'esprit mutualiste. C'est-à-dire se rendre compte que dans son quartier, on pouvait se grouper et faire quelque chose ensemble. Et tous ensemble, ils se sont donné une couverture de santé. Cette fille est rayonnante. Elle est en plein territoire où en France, dans le sud-est, le Front National, l'extrême droite, prospère. Dans sa commune, le Front National ne parvient pas à s'implanter. Parce qu'ils sont dans une logique collective, joyeuse, constructive, très très concrète. Là, on parle de quelque chose de très concret. Ça rembourse les soins dentaires.
Ça marche, oui.
Ça marche. Ils ont fait quelque chose ensemble.
Et depuis 15
elle est
ans,
lumineuse, voilà. Cette femme.
Et vous, Alexandre Jardin, depuis 15 ans où vous travaillez avec ces feuseux,
oui.
Vous êtes plus heureux, justement ?
Infiniment. Infiniment. Moi, il y a 15 ans, j'ai commencé à faire ma part. J'ai monté en France un énorme mouvement. Il faudrait qu'un jour, ça débarque en Afrique. On embarque les anciens, les retraités. On les embarque dans les écoles maternelles et primaires pour qu'ils transmettent le plaisir de la lecture à des tout petits groupes d'enfants. On est 16 000 en France à faire ça, dans les 100 départements français. On a décidé de faire une nation de lecteurs et de vacciner les enfants contre l'échec scolaire. Et plutôt que d'espérer ça, on le fait dans nos communes. On organise la venue des anciens dans les écoles maternelles, primaires. C'est à la portée de n'importe qui d'organiser ça.
Et ça fait du bien. Et vous dites d'ailleurs...
C'est plus que ça. Ça vaccine contre l'échec scolaire. Ça fait du bien en même temps. Mais alors qu'en France, tout le monde croit qu'il faut voter des grandes lois ou changer de gouvernement pour lutter contre l'échec scolaire. C'est pas vrai. Il faut se prendre en main là où on est, dans notre commune, dans notre quartier. Ça va beaucoup plus vite. Et c'est jouissif.
Et vous dites d'ailleurs, osons être heureux. Vous êtes heureux, Alexandre Jardin ?
En ce moment, j'ai beaucoup d'emmerdes. Mais oui, parce que dans mon lot d'emmerdes, j'agis et je vois des gens qui agissent. Je vis avec des gens qui agissent. Donc on n'est pas tout seul. Le mouvement des zèbres est aujourd'hui, c'est des centaines. Enfin, c'est en train de. C'est une vraie révolution civique qu'on est en train de structurer. Et donc c'est vrai que le fait de savoir qu'on n'est pas tout seul.
Ça fait du bien.
Oui.
Et docteur Alain Braconnier, effectivement, pour reprendre un peu ce que dit Alexandre Jardin, je ne vais pas prendre le même terme, mais je vais dire quand on a des tuiles qui vous tombent sur la tête, on peut quand même être heureux.
Ah oui, je crois d'ailleurs que probablement que le bonheur, quand on le ressent, dans certaines situations, c'est parce qu'on sort du malheur.
Parce qu'on voit la différence entre les deux.
Ah oui, on voit la différence entre les deux. Et en effet, on a un mouvement qui fait qu'on est sorti de situations qui nous ont rendus malheureux et qui sont des situations dont on peut tout à fait comprendre qu'elles nous aient rendus malheureux. Une maladie, un échec, des problèmes
de séparation, de la vie, enfants qui vont pas bien. Enfin,
et quand on en sort, évidemment, faut faire en sorte qu'on tente d'en sortir. Donc, en effet, faut agir, faut faire, faut s'engager, faut aller vers les autres, faut communiquer avec les autres, faut communiquer avec ceux qui vont plutôt bien. Mais incontestablement, il y a des moments où, au fond, c'est pas mauvais d'être pessimiste à un certain niveau. Ça anticipe les difficultés, ça anticipe les problèmes. Mais c'est peut-être quand tout va mal qu'il faut justement essayer
de voir ce qui va bien aussi.
De voir ce qui va bien, de s'émerveiller pour quand même ce qui est beau, et je crois vraiment de faire en sorte que on puisse, de ce pessimisme, disons, défensif, préventif de ce qui va mal, faire quelque chose qui vous mène vers une réalisation, si possible une réussite. Réussir, ça fait du bien, mais faire, là je partage tout à fait ce que dit Alexandre Jardin,
c'est encore mieux.
Shakespeare l'avait dit,
c'est encore mieux.
Faire, c'est vraiment très agréable.
Et vous allez nous dire comment, justement.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, nous parlons du bonheur à l'occasion de la sortie d'un hors-série du magazine Psychologie, le grand guide du bonheur. Avec moi pour en parler, Alexandre Jardin, le docteur Alain Braconnier et Sylvie Hesbrook. Je voudrais qu'on prenne au téléphone Nicolette qui nous appelle du Cameroun. Nicolette, bonjour.
Bonjour, Claire.
On vous écoute, Nicolette.
Ok, bon, j'ai 26 ans, je suis médecin et je vis au Cameroun, à Douala. Bon, le fait c'est que, aussi loin que je me souvienne, bon, je n'ai pas vraiment le souvenir d'avoir été très, très heureuse. Même à 5 ans, j'avais l'impression que j'avais toujours des questions un peu existentielles comme ça. C'est vrai que de temps en temps, il y a des places de bonheur, des bonheurs par rapport à, je sais pas, mes diplômes par exemple, bonheur par rapport à pas des petites joies qui ne durent pas. Et dans l'ensemble, un sentiment de, je sais, d'inachevé.
D'insatisfaction, c'est ça?
Voilà. Un sentiment d'insatisfaction.
Et dans le message que vous avez laissé, vous dites aussi que vous vous posez beaucoup de questions existentielles. Docteur Alain Braconnier, qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Nicolette? D'abord, on a envie de lui dire bravo, 26 ans médecin, c'est déjà une belle réussite.
Oui, oui, et il faut être heureux d'être médecin, parce que justement, on va vers les autres, on agit, on essaye d'aider dans la mesure où on le peut, sortir les personnes de leurs difficultés, de leurs souffrances et parfois de leurs malheurs. Je trouve que ce que nous dit Nicolette, là aussi, est vraiment intéressant par rapport à cette question de l'optimisme et du bonheur. C'est pas d'avoir qui rend heureux. Il y a des études qui ont été faites maintenant partout dans le monde où on s'est interrogé qu'est-ce qui rendait les personnes satisfaites. Ces études globales sur des populations dans beaucoup de pays du monde. Et étonnamment, c'est pas le fait d'avoir des richesses ou de posséder qui rend heureux. C'est la qualité de vie, c'est la capacité de s'amuser, la capacité de rencontrer les gens, justement. Et ça, ça a été prouvé.
Et de façon très concrète, oui, c'est ça. De façon très concrète, quels sont les conseils que vous pouvez donner à Nicolette? J'imagine que c'est un peu ce que vous disent les gens en consultation. Quels conseils vous avez envie de donner à Nicolette pour qu'elle ait moins d'insatisfaction?
Déjà, d'être et de faire plutôt que d'avoir. Parce que l'insatisfaction, elle repose souvent sur « il me manque quelque chose », elle nous le dit bien, Nicolette. Et alors que être et faire, c'est justement quelque chose qui fait qu'on peut être plus heureux. Puis le deuxième point, elle dit « j'ai un sentiment d'inachevé ». Alors ça, c'est très très intéressant aussi par rapport à justement à l'optimisme et à ce qui mène au bonheur. C'est que on sait aujourd'hui que ce qui fait, en particulier chez un enfant, une éducation qui va le rendre peut-être plus heureux que d'autres enfants, c'est d'avoir la capacité de montrer à l'enfant que quand il persiste, quand il achève quelque chose, un jeu, un dessin, une activité,
il y a une satisfaction.
Et là, il y a une vraie satisfaction.
On y reviendra, parce que vous avez plein de conseils à donner sur l'éducation. Alexandre Jardin, vous avez peut-être envie de dire quelque chose à Nicolette.
J'ai beaucoup aimé ce sentiment d'inachevé. Mais c'est l'énergie de la vie. C'est parce qu'on a un sentiment d'inachevé qu'on avance.
Oui, heureusement qu'à 26 ans, elle n'a pas déjà tout fait, c'est ça?
Non, mais même, peu importe l'âge. Oui, à 26, encore plus. Mais c'est magnifique d'avoir un sentiment d'inachevé. Ça me semble une très bonne nouvelle.
Ça me semble une bonne nouvelle. On va prendre merci beaucoup, hein, Nicolette, et bon courage à vous. On a Soraya, j'espère que ces petits conseils vont vous aider. On a Soraya qui nous appelle du Togo. Bonjour, Soraya.
Bonjour, Claire.
On vous écoute,
bonjour,
Soraya.
Bonjour à tous les invités.
Bonjour.
Ok, moi, je me suis longtemps posé des questions à ce qui concerne le bonheur et la satisfaction. Et depuis toute mon enfance jusqu'à mes trentaines, j'ai eu du mal à mettre la différence en ces deux mots-là. Je vois que la plupart des gens, la satisfaction au bonheur, celui-ci dit qu'il a besoin de matériel. Bon, disons, tout ce que tout le monde rêve dans la vie d'avoir. Mais à côté de moi, les gens vivent dans ce bonheur. Ils vivent avec plein de trucs, voitures, boulot, famille.
Et votre conclusion, Soraya, c'est que ce n'est pas ça qui rend heureux, c'est ça?
Oui, c'est pas ça qui rend heureux. Et au même moment, je me rends compte que quand dans la vie, on a envie de s'exprimer, de dire ce qu'on pense, d'une part, et quand on a des vidéos, on a plein de choses à créer ou à réaliser, qu'on est bloqué, bon, du coup, on s'est ce n'est pas seulement le matériel, quoi. Je vais expliquer.
C'est très important de le dire. C'est un peu ce que vous disiez, docteur Braconnier.
Oui, je crois qu'en effet, il y a vraiment dans la vie des difficultés, c'est incontestable, et que si on cherche toujours le fait que ces difficultés, on idéalise la capacité de ne jamais en avoir ou de pouvoir toutes les dépasser, non, il faut aussi savoir, je dirais, laisser un peu aller les choses. Et puis je crois qu'en effet, par rapport entre bonheur et satisfaction, une fois de plus, c'est ça, c'est-à-dire que c'est pas dans la satisfaction. Il y a des attitudes humaines beaucoup plus simples qui font que on peut être satisfait. C'est de pas se tourner vers les regrets, par exemple. Quand on se tourne systématiquement vers les regrets, incontestablement, on va toujours être un petit peu dans le négatif. Il faut aussi se tourner soit vers l'actuel, bien évidemment, et puis aussi vers le futur. Donc il y a comme ça des attitudes simples qui font que
c'est vraiment un regard qu'on porte sur la vie.
C'est un regard qu'on porte sur la vie. Et puis, je crois que notre auditrice nous le dit, Soraya nous le dit, c'est quand même incontestablement de communiquer. C'est-à-dire un sourire, un rire, un geste, un regard. Eh bien, c'est ça qui fait que...
Ça change la relation à l'autre.
Ça change la relation à l'autre.
Alexandre Jardin ?
Oui, oser communiquer. Oser. Même courir des risques.
Vous racontez dans votre livre une jolie histoire. À 14 ans, vous êtes raide amoureux d'une jeune fille d'un des pays de l'Est, je ne me rappelle plus lequel.
En Slovénie.
Vous le dites au revoir sur le quai, vous regrettez de ne pas monter dans le train.
Évidemment. J'ai pas osé sauter dans le train, ce qui est une connerie. Il faut toujours sauter dans le train.
Et alors? Non, mais la suite de l'histoire, la fin est moyenne, mais votre père, il est, voilà.
Et mon père m'a vu en larmes. Et il m'a dit, mon chéri, on va utiliser de l'argent honnêtement et intelligemment. On va aller à l'aéroport. On va prendre un avion. On va rattraper le train. Et le lendemain matin, on sera sur le quai à l'arrivée en Slovénie. Tu seras sur le quai, tu l'attendras. Et les femmes dans sa famille se souviendront de toi pendant 12 générations. On l'a fait.
Oui, mais c'était un peu triste, là, finalement.
Oui, j'étais sur le quai. Elle est descendue, elle m'avait caché qu'elle avait un petit ami là-bas.
Qui l'attendait sur le quai de la gare.
Mais c'est pas grave. Évidemment que j'ai souffert sur le moment.
On raconte ça en rigolant. À 14 ans, vous n'avez pas du tout trouvé ça drôle.
Non,
seulement
j'ai manqué d'humour.
Non, mais c'est surtout d'avoir osé, moi. Moi, je trouve ça génial. Moi, je suis pas sûre que mes parents m'auraient en avion.
Mais il n'y a pas d'autre solution sur Terre que d'oser vivre.
Tout à fait.
À un moment, le temps nous est compté.
C'est un bel exemple. Alain Braconnier, vous avez évoqué la question des enfants. On y reviendra tout à l'heure avec le travail que fait Sylvie Hasbrouck. Mais vous dites qu'il y a une façon, et c'est vraiment votre ouvrage est vraiment là-dessus, hein, l'enfant optimiste. Il y a une éducation justement au bonheur.
Oui, je suis parti tout simplement d'un point de vue qui se discute. Hein. Je crois que le moment de la vie où on est probablement en train de vivre ce qui caractérise justement l'ouverture vers le monde, et donc l'optimisme et donc le bonheur, c'est quand on est bébé. Au fond, quand on y réfléchit 30 secondes, le bébé, c'est quand même un être incroyable. Il ne sait rien. Il est incapable de faire quoi que ce soit. Il a systématiquement besoin des autres. Et il s'intéresse à ce qui l'entoure. Alors ça, franchement, c'est un modèle. Et ce modèle-là, c'est pas qu'il faut rester bébé toute sa vie, même si on garde toujours en nous un petit côté comme ça. Mais il faut utiliser, au fond, cette force qu'on a en nous. Et là aussi, on a montré qu'on était beaucoup plus... capable d'être heureux qu'on le pensait.
Si vous voulez bien, on développera ça dans la deuxième partie de l'émission. On se retrouve dans 3 minutes, juste après les infos.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons du bonheur à l'occasion de la sortie d'un hors-série de Psychologie Magazine intitulé « Le grand guide du bonheur ». Quelles sont les clés pour être heureux? Un psy peut-il aider sur le chemin du bonheur? On en parle avec Alexandre Jardin, qui est romancier, scénariste et qui est rédacteur en chef de ce hors-série sur le bonheur. Il a publié son dernier livre, en tout cas « Laissez-nous faire ». On a déjà commencé, c'est aux éditions Robert Laffont. Également avec nous, le docteur Alain Braconnier, qui est médecin psychologue et qui lui a sorti L'enfant optimiste. C'est aux éditions Odile Jacob et vous pouvez continuer à nous appeler au 33 1 84 22 75 75. On a au téléphone le professeur Prosper Gandao, qui est chef du service de psychiatrie au CHU de Borgou à Parakou au Bénin. Professeur Gandao, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct dans Priorité Santé. C'est quoi le bonheur pour un Béninois? J'imagine en fait que c'est peut-être pas très différent d'une autre.
Oui, enfin, si on parle des définitions, on dit de quelqu'un qu'il a le bonheur quand il vit en harmonie totale avec lui-même et avec son environnement. Donc, c'est un sentiment d'épanouissement global et durable que lui confère donc le milieu dans lequel il se trouve et cela lui procure donc de la joie, du plaisir durable.
Et cette question du bonheur, est-ce qu'elle est abordée en consultation avec vos patients?
Oui, elle est abordée de façon détournée, et c'est surtout chez les personnes qui sont déprimées, qui ne se sentent pas heureuses dans leur milieu. Donc c'est à travers donc la dépression et la maladie que nous abordons le bonheur. Et en dehors donc du traitement médical que nous instituons, il faut forcément les amener à voir autrement la vie du bon côté.
Docteur Braconnier, comment cette question elle est abordée du bonheur dans vos consultations avec vos patients?
Justement, comme me le dit ce confrère, c'est vrai qu'elle est abordée à partir de situations où justement
je ne suis pas heureux,
je ne connais pas le bonheur, et que
en gros, si on est heureux et qu'on va bien, on va pas voir un psy, c'est ça?
J'espère.
Parce que c'est dans des moments où ça va pas qu'on vient vous voir.
Ou alors c'est quand on est aussi parfois trop heureux. sans liaison, hein, trop heureux. Je crois que c'est très intéressant aussi ça, parce que en tout cas dans les études sur l'enfant, toutes les réflexions sur la construction de l'optimisme sont parties de ce qu'on pouvait apporter aux enfants qui étaient plutôt tristes ou déprimés, et pour lesquels on ne souhaitait pas justement donner des médicaments. Donc on a essayé de comprendre comment on peut un peu modifier. Il s'agit pas de transformer du tout au tout, mais comment on pouvait un petit peu modifier le mode de pensée, le mode de relation au monde, justement l'harmonie avec soi-même et l'harmonie avec le monde chez l'enfant. Et que c'est à partir de là qu'on a pu beaucoup mieux comprendre quelles étaient les petites caractéristiques qui faisaient qu'on pouvait transmettre une éducation plus positive que négative.
Alexandre Jardin, j'ai cru comprendre que vous aviez fait un travail thérapeutique ou psychanalytique, je ne sais pas d'ailleurs de quel ordre, et c'est à partir de ce moment-là que vous êtes justement plus posé cette question du bonheur, du comment être heureux, à un moment où ça n'allait pas, on a besoin de se faire aider?
Oui. Très, très clairement. Mais et à un moment où je me suis rendu compte, je suis romancier moi. C'est terrible parce que quand vous écrivez toute la journée, vous avez recours à quelque chose qui n'existe pas. Un univers romanesque. Et à un moment donné, il faut quand même rencontrer le réel. Il faut quand même que la vie ait lieu. Et c'est vrai que ce travail m'a conduit à
du plus concret, justement.
Un engagement civique énorme. Je n'oublie pas le romancier. Il vit toujours, mais...
Oui, vous continuez à écrire des romans.
Bien sûr, la nuit. Mais c'est un piège terrible. C'est un piège terrible d'avoir recours à l'imaginaire de manière intensive.
Tout le temps, il faut aussi faire autre chose à côté.
Oui.
Docteur Gandao, quels sont les conseils que vous donnez justement sur ces questions de bonheur pour essayer d'être heureux?
Ouais, nous rencontrons souvent deux catégories de personnes. Il y a les gens qui sont grincheux et ceux qui sont joyeux. Alors, nous conseillons souvent à nos malades ou à ceux qui demandent de l'aide qu'il faut qu'ils essaient de se remémorer un peu les moments de plaisir qu'ils ont vécu et qu'ils, disons, acceptent ce qu'on appelle le lâcher prise, que quand une situation arrive, qu'ils essaient donc de résoudre ces situations de façon objective, mais ne soient pas bloqués, freinés, ne voient que n'interpréter cela que comme du malheur. Donc il faut qu'ils aient un peu foi donc en l'avenir et qu'ils se projettent donc dans un peu quelque chose de joyeux.
Merci beaucoup, hein, professeur Gandao. Je rappelle que vous êtes chef du service de psychiatrie au CHU du Borgo à Parakou, au Bénin. Je voudrais vous lire quelques réactions d'auditeurs. Il y a Mohamed qui est à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville et qui nous dit « Je suis heureux car j'accepte la vie telle qu'elle est. Je ne m'inquiète pas pour le futur. Je vis dans le présent. Voici ma recette du bonheur, plein de sagesse. » Inès nous dit « Pour moi, il n'y a pas le bonheur, mais des bonheurs. » Et puis, Ipar nous dit « Le bonheur, c'est comme l'amour. Il est rare. Quand tu crois l'avoir trouvé, c'est souvent un mirage. Pourquoi d'ailleurs les gens cherchent-ils le bonheur ?» Et Mike qui nous dit « Le meilleur moyen de répandre le bonheur est de le partager avec une autre personne. » Ça rejoint un peu ce que vous disiez, Alexandre Jardin, sur le partage. Sylvie Hasbrook, vous faites tout un travail artistique sur les émotions, entre autres avec des enfants, pour qu'ils puissent mieux comprendre leurs émotions. Vous avez créé une infirmerie à émotions. On en a déjà parlé dans Priorité Santé. Rappelez-nous un peu comment ça fonctionne, cette infirmerie à émotions. C'est quoi ?
C'est une installation qui est artistique, interactive et totalement ludique pour les enfants. Et donc son principe d'action, c'est de transformer les émotions en création, que ce soit manuel, corporel, de faire quelque chose en fait, d'en faire quelque chose.
Une émotion fréquente chez les enfants, la colère par exemple.
On fait quoi
dans votre infirmerie à émotions avec la colère?
Selon les installations, selon la fréquence, parce qu'il y a aussi des installations fixes, permanentes, et puis il y en a d'autres qui sont itinérantes, juste en exposition, démonstration. Mais en fait, on propose aux enfants d'avoir des réflexes de petites solutions d'urgence. Donc par exemple, ça peut être d'écraser des feutres de toutes ses forces, qui va permettre d'extraire la tension de la colère dans les bras. Ça fait déjà 50% qui redescendent. Et puis après, on peut discuter, puis on peut transformer tous ces points sur une feuille en un tableau. C'est une façon de montrer qu'on peut en faire quelque chose.
Quelle est la place du bonheur dans cette infirmerie à émotions, puisqu'on parle du bonheur aujourd'hui?
Cette installation, c'est aussi un acte militant pour le bonheur. J'ai envie de répondre à cette question de deux façons. La première, c'est un acte militant parce que non, je ne crois pas qu'un enfant puisse être décelé comme délinquant à 4 ans et demi, mais que s'il incruste les Lego dans la joue de ses copains, c'est pas parce qu'il trouve ça fun, mais c'est parce qu'il
juste parce qu'il va pas bien.
Voilà, et que donc on peut lui proposer des petites solutions de confort, de vie en collectivité pour que ça aille mieux pour tout le monde. Et donc c'est de ce point de vue-là que le bonheur est présent, c'est apprendre à et la place du bonheur, c'est aussi la recentrer par rapport à l'intérêt de fréquenter les autres émotions, c'est-à-dire avoir du chagrin, avoir de la colère. C'est aussi, ça participe au bonheur dans le sens où finalement...
Nommer ses émotions, finalement, c'est
oui,
ça.
Oui, pas seulement les nommer, mais comprendre qu'à un moment donné, on ne se sent pas respecté et le dire. Oh là là, qu'est-ce que c'est chouette et qu'est-ce que ça peut apporter comme
ça
bonheur après.
Se pencher sur ses émotions, d'ailleurs, c'est assez dans l'air du temps. Vous souhaitez nous parler d'un film qui va sortir dans 15 jours, Vice-versa.
Oui, parce que Pixar m'a gentiment proposé de venir le voir avant la sortie, alors je triche. C'est un film très intéressant puisque finalement ça présente les émotions comme un petit bureau central d'information dans le cerveau avec les cinq émotions dites premières, enfin celles que Descartes aura identifiées comme les premières émotions. Et on voit bien dans ce film en fait l'importance du lien les unes aux autres. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, docteur Braconnier. Dans ce film, c'est la joie à la petite enfance qui prend l'impulsion pour les autres, qui tire les autres, qui installe les autres, qui montre comment les autres ont un lien, en quoi elles sont utiles. Mais en fait, ce film, c'est une façon, je pense, de pouvoir, pour tout le monde, toutes catégories confondues, âge, de pouvoir voir simplement ce que représente une émotion, son intérêt, son apport et plaisir de renouer avec cette émotion d'enfance.
Et aujourd'hui, où est-ce qu'on peut voir cette infirmerie à émotions?
Il y en a plusieurs genres. Il y a celle qu'on peut voir si on m'appelle et je vous emmènerai volontiers les visiter dans une école maternelle à Jean Jaurès dans le 93 à Saint-Ouen qui fonctionne depuis 5 ans. tous les jours pour les enfants. Il y en a une au service psychiatrie de l'enfance qui s'installe en ce moment à Robert-Debré.
L'hôpital
Robert-Debré pour les enfants autistes, anorexiques et les hyperactifs. Et puis pour le grand public, il y a une partie de l'infirmerie émotion qui s'installe au musée en herbe au mois de juillet. Il y a des ateliers autour de l'infirmerie émotion qui sont prévus au théâtre de Chaillot à la rentrée à partir de septembre. Et puis il y a un site internet sur lequel on peut trouver des informations et me contacter, qui est l'infirmerie émotion.
Et on mettra tout ça sur notre site internet,
hein,
rfi.fr, dans la rubrique priorité santé. Alain Braconnier, dans ce Psychologie magazine hors série sur le grand guide du bonheur, vous donnez 5 clés pour cultiver l'optimisme intelligent. Dites-nous. Et l'optimisme intelligent, hein, c'est pas l'optimisme.
Pourquoi j'ai dit l'optimisme intelligent? C'était assez prétentieux de dire ça comme ça. Ça voulait dire l'optimisme lucide. C'est-à-dire que la première clé, c'est de savoir aussi, et Alexandre Jardin le disait tout à l'heure, c'est savoir aussi prendre en compte la réalité. Il faut savoir imaginer, mais quand on imagine trop et qu'on prend pas suffisamment en compte la réalité, à ce moment-là, c'est... Alors, on va souvent critiquer les optimistes BA, par exemple. Moi, je suis assez d'accord de les critiquer. C'est-à-dire que il y a là quelque chose qui est trop. Ouais. Donc, l'optimisme lucide, c'est important, c'est la première clé. C'est être quand même tourner vers quelque chose qui est possible, combattre, s'engager, etc. Mais en même temps, avec une certaine lucidité de ce qui nous entoure, du monde, des réalités. Il y a une deuxième clé qui est beaucoup plus psychologique, qui est, on sait maintenant comment pensent les optimistes et comment pensent les pessimistes. On le sait.
Il y a quelque chose dans le cerveau de différent, en gros, c'est
ça ? Alors, il y a quelque chose dans le cerveau, il y a surtout quelque chose dans la manière de penser qui fait qu'on sait vraiment comment pensent les optimistes et les pessimistes. Les optimistes, quand ils ont un problème, ils vont se pointer sur une spécificité, c'est-à-dire, c'est un problème, c'est pas tous les problèmes. Ils vont aussi savoir que c'est actuel et que c'est pas tout le temps. Et puis, ils vont aussi se dire qu'ils ont la capacité quand même d'être suffisamment efficients. Donc, le pessimisme, c'est complètement l'inverse. Quand il y a un problème, tout est un problème. Quand il y a un problème, il y a tout le temps des problèmes.
Et ça veut dire qu'on peut le changer ? C'est une question de regard. Oui, ça se change.
Ah oui, ça se change. Ouais. Alors ça se change de façon un peu éducative, un peu, un peu technique. C'est-à-dire qu'il y a des programmes qui permettent de penser un peu autrement. Et puis c'est aussi donner du sens à la vie. C'est aussi permettre justement de libérer ses émotions. Il n'y a pas que des programmes qui sont ce qu'on appelle aujourd'hui cognitifs. Mais c'est vrai qu'on peut changer sa manière de voir les choses. C'est là où le jeune
Donc
enfant...
Donc raisonner en positif.
Raisonner de telle façon qu'on ne va pas généraliser et qu'on ne va pas, et dans le temps et dans tous les problèmes, ce qui se passe. On va les limiter et on va faire en sorte qu'on se dit « oui, mais pour le reste, c'est pas mal ». Et puis l'enfant, une fois de plus, l'enfant, il vit dans l'instant. La particularité de l'enfant, c'est de vivre dans l'instant. C'est de ne pas toujours ruminer sur ce qui s'est passé. Parce que ça, c'est terrible, et que ça vous écrase, hein. Et que la rumination est quelque chose de terrible. Donc là aussi, ça se travaille, tout ça. Ça demande un effort, hein. C'est pas si simple que ça. Parce que on l'a appris, les professionnels l'ont appris aux enfants, après ils l'ont appris aux enseignants, après ils l'ont appris aux parents. Donc tout ça, ça se travaille. En France, on n'est pas encore très au point là-dessus. Mais bon. On a d'autres moyens de se rendre plus optimiste.
Ah oui, tout à fait. Alexandre Jardin, vous interrogez un peu sur cette question. On est pessimiste, les Français?
Justement, le mécanisme est à l'œuvre. On généralise ce qui ne va pas. Et si j'ai lancé le mouvement des zèbres, c'est à la fois pour agir, et c'est aussi pour modifier la perception que les Français ont d'eux-mêmes.
Rien bouge en France, rien ne se fait rien d'intéressant, vous montrez l'inverse.
On est en train de faire émerger, là c'est drôle, ce matin je communiquais avec des journaux de la presse régionale, qui cet été vont faire des rubriques zèbres, pour faire remonter les talents, les innovations, les expériences extraordinairement positives de leur territoire, vers nous. Donc à la fois on lance une action, très concrète. Tout à l'heure, je parlais des mutuelles de santé ou du programme de lecture avec les anciens. Et en même temps, on a entamé un énorme travail collectif de reconsidération de ce que nous sommes. Et si on échouait, de toute façon, on gagnera. Parce qu'on va faire vivre 2 ans au pays deux années au cours desquelles on va lui raconter son propre talent. On va le lui montrer. Et donc, même si on échouait techniquement, politiquement, on va de toute façon réussir à réévaluer l'estime de soi des Français. Et ça, c'est jubilatoire, parce que c'est peut-être ce qu'il y a de plus important qu'on est en train de faire. Si les gens veulent aller voir...
Donc vous êtes ambitieux dans
vos... bleublanzèbre.fr.
Oui, tout à fait. On va mettre toutes les coordonnées aussi sur notre site internet. Vous êtes assez ambitieux, là, dans ce que vous dites, parce que donc vous voulez redonner de l'optimisme aux Français, c'est ça?
Mais vous savez, la dernière fois que c'est arrivé, quand on a été vraiment dans le trou en France, ça s'est appelé l'occupation. Il y avait 40 millions de gens qui se sont couchés. Et puis il y en a 30 000 qui ont filé à Londres, qui sont devenus ce qu'on appelle des Français libres. Il a suffi de 30 000 Français libres, c'est pas beaucoup, hein, pour embarquer 40 millions. Et ces Français libres, c'était des gens qui n'acceptaient pas la fatalité, qui n'acceptaient pas l'occupation nazie. Et qui se sont dressés, c'était des gens très joyeux, très, qui vivaient dans le présent. Et lorsqu'on lit leurs textes, ils se sont marrés comme des fous. Pourtant, ils se faisaient buter, ils se faisaient torturer, mais ils étaient debout face à la fatalité. Or, je suis persuadé que nous pouvons recommencer ça. Je suis persuadé qu'il y a une masse critique de gens, en ce moment en France, qui portent cette énergie-là. Donc simplement, on les révèle, on les fédère, on les embarque. Et je pense que chaque pays peut faire ça. Tous les gens qui nous écoutent, là, ils peuvent faire ça. Monter des mouvements civiques ultra positifs.
Est-ce qu'il y a des cultures, justement, plus aptes à ça?
On ne peut pas dire que la France soit surdouée pour ça. La preuve, je vous dis bien que la dernière fois que ça s'est très très mal passé, il n'y en a eu que 30 000 sur 40 millions.
Qui ont bougé.
Qui ont vraiment bougé, plus de 200 000 résistants au
qui
sommet.
Sont restés, oui.
Mais enfin, ça ne fait pas lourd. Mais c'est suffisant. Mais vous savez, pour faire monter une boule de pain, il faut un peu de levain. Qu'un peu. Donc on va gagner.
Donc vous êtes un optimiste. Et ce qui m'a aussi intéressé dans votre livre, c'est, et vous l'avez déjà évoqué là, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec. Vous avez lancé des projets qui n'ont pas forcément toujours marché.
Mais très souvent. C'est le propre des gens. C'est le propre des gens qui passent à l'acte.
Mais au moment de l'échec, quand même, c'est dur.
Il y a une manière très simple d'encaisser un échec. C'est de le reconnaître.
Oui.
Vous vous plantez. Quand j'étais gamin, j'ai appris quelque chose avec mes copains qui, à l'époque, il y avait un grand joueur de foot, qui était Platini, en France. Et un jour, dans un journal de foot, je lis que c'était le meilleur buteur français à l'époque. Mais c'était également celui qui ratait le plus souvent.
Donc il essayait.
Il essayait tout le temps. Je tiens, c'est le type qui, à l'époque, échouait le plus. Mais il essayait. Ça finit par rentrer à un moment.
Docteur Marconi, c'est ça qu'il faut apprendre aux enfants, effectivement.
Ah oui, ça, tout à fait. D'ailleurs, moi, je suis pas un fanatique du tout optimiste, du tout positif, du tout estime de soi, même s'il en faut. Mais c'est vrai que l'éducation dans certains pays est une éducation qui fait que quand on fait une erreur, on a essayé. En France, quand on fait une erreur, on a un échec. Et que c'est plutôt une autre manière d'éduquer l'enfant. Si on propose,
et donc ça se joue à l'école,
ça se joue beaucoup à l'école,
dans la façon de noter, justement.
Tout à fait. Alors ça, les notes, vous savez tout le débat qu'il y a sur les notes, bien sûr. Moi, je suis pas du tout critique à l'égard des enseignants. Je pense qu'il y a des enseignants, il y a plein d'expériences qui se font par les enseignants. Elles sont éparses à
vous
droite,
en citez,
à gauche.
D'ailleurs, Alexandre Jardin.
Ouais, il y en a plein. C'est le système qui est pas bon, parce que le système fait que vraiment on est dans une sorte de difficulté à se représenter que quand on essaye quelque chose, eh bien c'est ça qui fait avancer. Ça m'amuse ce que dit Alexandre Jardin à propos de Platini, parce que moi je suis un sportif, un psy sportif, il y en a pas tant que ça. Et quand on fait du sport, eh bien on a essayé. Une fois on gagne, une fois on perd, mais quand on a perdu, il faut recommencer. Et ça, c'est une magnifique école de la vie. C'est pour ça que moi j'aime bien le sport. Mais bon, au-delà de cette petite anecdote-là...
Non, mais c'est pas une anecdote, parce que j'essaie de retrouver à quel moment dans le guide Psychologie Magazine, justement sur le bonheur, il y a marqué de faire du sport.
Ah oui, moi je crois que c'est... D'abord, ça fait du bien. D'abord, il faut pas scinder notre côté...
Le kit du bonheur en 12 outils, il y a le premier, c'est faites du sport, le deuxième, c'est dormir, et le troisième, c'est sourire.
Ben oui, mais c'est moi, je suis assez d'accord avec ça. Ça paraît assez simple comme ça, mais je suis assez d'accord avec ça. Mais on n'y arrive pas toujours facilement, hein. Et c'est vrai qu'on a un côté grincheux, comme disait notre correspondant tout à l'heure. On a un côté grincheux en France. Alors c'est intéressant parce qu'on a un côté grincheux par rapport à ce qui se passe et par rapport aux autres. Quand on part de ce qui se passe pour nous, là les enquêtes l'ont montré, on est plus optimiste qu'on le dit par rapport à ce qui nous entoure. C'est rigolo, on est drôle quand même les Français.
Paradoxal. Sylvia Zbou, vous voulez...
Parce que vous parlez des notes à l'école, et en fait, moi, je vois dans les parents que je croise dans les installations d'infirmerie à émotion, je trouve qu'il y a une grande, grande culpabilité qui habite les parents. Et donc, il y a une grande volonté de ne pas laisser leurs enfants supporter des émotions trop fortes, de les prendre à leur place, et du coup, de les préserver, les empêcher. Je trouve que ce que vous racontez sur le sport, docteur Braconnier, Alexandre Jardin, c'est tout à fait sain. C'est-à-dire que finalement, il faut y aller pour pouvoir se dire après, c'est pas si grave. Sinon, finalement, le fait pour les parents de supporter l'émotion à la place des enfants prépare merveilleusement ces enfants à être des adultes qui vont vivre toute émotion comme une tragédie.
Un mot de conclusion, on arrive à la fin de cette émission avant de retrouver la chronique nutrition de Stéphane Besançon, Alexandre Jardin.
Prenez-vous en main tout de suite.
Le bonheur n'attend pas, c'est ça.
Prenez-vous en main tout de suite. N'attendez jamais rien d'en haut, des autres. Prenez-vous en main tout de suite. Mais avec une gaieté folle.
On peut y arriver. Je rappelle que vous avez publié Laissez-nous faire, on a déjà commencé, aux éditions Robert Laffont, un livre effectivement optimiste où on voit qu'il y a des choses qui bougent en France. Alain Braconnier, peut-être un mot de conclusion.
Oh, je crois qu'il faut y croire. Tout ça relève de croire, c'est-à-dire d'être tourné vers quelque chose de possible, en effet de pas avoir des certitudes toutes faites, ni dans un sens ni dans un autre d'ailleurs, et la capacité de croire que l'être humain, ce qu'il y a au fond de nous, est tout à fait, je dirais, vivant et tout à fait, je dirais, capable de saisir ce qui se passe dans le monde, eh bien ça, le bébé nous le montre, et restons bébé toute notre vie.
Ce sera très bien. Les Braconniers, vous avez publié L'Enfant Optimiste, c'est aux éditions Odile Jacob, et je vous renvoie sur ce numéro, cette hors-série de Psychologie Magazine, Le Grand Guide du Bonheur. Franchement, un numéro très bien fait, pas du tout gnangnang bêta, avec plein de bons conseils très pratiques pour être heureux. Je trouve que c'est une bonne chose en début de semaine. Et pour terminer, on va parler nutrition, un autre moyen d'être heureux. L'alimentation, ça compte.
Priorité santé sur RFI.
Stéphane Besançon, bonjour.
Bonjour Claire.
Vous êtes à Bamako au Mali, vous êtes directeur de l'ONG Santé Diabète basée à Bamako au Mali. Et d'ailleurs, Alexandre Jardin, dans son livre, dit que l'alimentation, les repas, ça participe aussi au bonheur. Alors, vous allez là nous parler des produits diététiques. Quel conseil d'ailleurs pour ne pas se faire piéger. L'industrie agroalimentaire propose aujourd'hui un grand nombre de produits diététiques, rendant les choix des consommateurs assez difficiles. Quelles sont les grandes familles justement de produits qu'on rencontre fréquemment?
Alors, aujourd'hui, il existe trois grands types de produits. On a d'abord les produits allégés en matière grasse ou en sucre. On a les produits sans graisse ou sans sucre. Et puis enfin, une catégorie un peu particulière, c'est les produits très spécifiques qui répondent à des allergies alimentaires précises, comme par exemple les produits sans gluten.
Très à la mode en ce moment. Pouvez-vous nous décrire plus en détail justement ce que sont précisément ces produits ?
Alors, je vais commencer par les produits dits allégés en sucre et sans sucre qui comprennent trois familles. Mais attention, il faut que les auditeurs fassent attention parce qu'il y a un peu de sémantique avec les produits diététiques. Donc, il y a les produits sans sucre où le mot sucre est au singulier, qui ne contiennent pas de saccharose, mais qui peuvent contenir d'autres formes de sucre comme le fructose. C'est le cas de nombreux jus de fruits, par exemple, dits sans sucre ajouté. Il y a les produits sans sucre avec maintenant le mot sucre au pluriel, qui eux ne contiennent pas de sucre du tout et qui, comme les soda light, ce sucre est remplacé par les édulcorants. Et enfin, il y a les produits allégés en sucre, qui sont des produits dont la teneur en sucre est allégée au minimum de 25% par rapport aux produits de référence.
Et qu'en est-il pour les produits qui, eux, sont allégés en graisse ou sans matière grasse ?
Alors, là, pour les produits allégés en graisse, on a la même règle que pour les produits qu'on a mentionnés avant, allégés en sucre, avec une teneur réduite en graisse d'un minimum de 25%. Par contre, c'est là où il faut faire attention, les produits à noter sans matière grasse sont des produits ne contenant pas plus de 0,5 g de matière grasse pour 100 g ou 100 ml. Donc on voit déjà un premier piège pour les consommateurs, puisqu'un produit normalement intitulé « sans matière grasse » contient quand même des graisses.
Autant vous dire qu'on a du mal à s'y retrouver. En plus, tout ça est écrit en tout petit sur l'emballage et il faut une loupe pour réussir à les lire. Quels sont les autres pièges que les auditeurs doivent connaître pour choisir au mieux les produits ?
Alors, il y a trois grands pièges à éviter, et en fait, pour les éviter, c'est ce que vous venez de dire, Claire, il faut très bien lire les étiquettes. Et d'abord, il faut bien savoir, donc, ce qu'on vient de dire précédemment, qu'un produit dit sans sucre ou sans matière grasse peut quand même contenir du sucre ou des matières grasses. Il faut pas oublier qu'un produit allégé peut rester quand même très calorique si le produit de base est très très riche en graisse. C'est le cas des chips, par exemple. Il faut bien savoir aussi que le produit allégé est intéressant si l'aliment de base est très riche, soit en graisse, soit en sucre. Pour ça, on a l'habitude de prendre l'exemple du yaourt, qui est un aliment qui contient peu de graisse. Et donc, un yaourt à 0% de matière grasse présente un très fort coût à l'achat pour un gain diététique très faible.
Donc, ce n'est pas très intéressant d'aller acheter des yaourts 0%, si je vous comprends bien. Quelle est la conclusion ?
La conclusion, c'est vraiment clair de regarder l'apport calorique du produit. Parce qu'en fait, il ne faut pas que les consommateurs se laissent piéger lorsqu'un produit est allégé dans une matière, comme la matière grasse, il contient souvent plus de glucides et inversement. Donc il faut vraiment, vraiment bien regarder l'apport calorique global et pas se faire piéger par l'effet d'annonce qui est sur le produit avec le gros marqué 0% de matière grasse ou sans sucre, etc., et bien aller voir dans le détail. Et pour ça, on verra aussi la semaine prochaine comment utiliser, ou dans quel cas les utiliser ou pas les utiliser, parce qu'on sait que c'est des produits très chers, donc c'est pas forcément tout le temps la peine de dépenser beaucoup pour les utiliser. Parfois, c'est la peine, parfois non. Et on fera un petit focus aussi sur les édulcorants, puisque quand on vient sur les produits diététiques, c'est souvent la question centrale, la question des édulcorants.
Merci beaucoup Stéphane Besançon. Et comme d'habitude, on retrouve la chronique sur le blog de l'émission. Vous trouverez toutes les coordonnées sur notre site internet rfi.fr. dans la rubrique Priorité Santé, avec également les livres des invités, les sites internet qu'on a pu citer. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé. À demain.